mode d'emploi.
Bonjour, bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Nous sommes ensemble pour une heure d'émission, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires. Aujourd'hui, l'émission est animée par une équipe de militants d'Attaque et du journal Le Piaf. Nous sommes rassemblés dans le studio de Fréquence Paris Pluriel avec Pierre, moi-même et notre invité du jour, Frédéric Vial, membre d'Attaque.
Mais nous commençons en accord avec le thème de Fréquence Paris Pluriel cette semaine, qui a fait une semaine spéciale sur les médias alternatifs, par parler un petit peu, non pas des médias en général, mais de l'accès pour les médias alternatifs au grand public. Parce que le grand public, finalement, c'est un thème assez particulier, étant donné que les médias, ça peut s'adresser à des petites niches de population, et d'autres s'adressent à énormément de monde. Alors, qu'est-ce que le grand public et pourquoi les médias doivent-ils s'adresser au grand public? On écoute Alain Duez, que nous recevions le 9 octobre dernier, nous parler justement de l'importance de ces médias, des médias alternatifs, de ceux qui sont là alternatifs parce qu'ils s'opposent aux médias grand public, et qui pour autant existent souvent par un milieu militant. Or, ce milieu militant a tendance, c'est un peu naturel, à s'adresser aux gens qui les comprennent, qui ont le même vocabulaire, la même façon de s'exprimer et parfois même, évidemment, les mêmes convictions. Or, cette presse grand public, qu'on la laisse uniquement aux grands quotidiens, aux grands annonceurs, aux Bolloré, aux Dassault, alors qu'il existe peut-être une presse grand public. Et quel est son intérêt? On écoute Alain Duez nous en parler.
La pluralité n'est pas assurée. Hein. Il y a eu au mois de janvier avec ce drame de Charlie. Sur la liberté de la presse. Pour moi, la liberté de la presse en France, elle n'est pas menacée. La preuve en est, c'est qu'on crée des organes de presse assez facilement avec des aides de l'État, même si c'est financièrement pas toujours facile. Mais par contre, la pluralité, elle n'est pas du tout assurée. Et pour effectivement la majorité de la population, pour éviter le terme grand public, il existe des médias alternatifs effectivement qui ont un autre discours, mais qui n'arrivent pas à dépasser un certain lectorat. Et un lectorat qui est effectivement souvent militant, souvent convaincu. Et là, pour moi, donc, on a fait un peu l'état des lieux en début d'émission, c'est intéressant, mais ce qu'on a dit là, on le lit, on le relit, on l'a entendu, on le réentend. Maintenant, la question est: que peut-on faire pour changer la situation? Pour moi, il y a vraiment un problème de difficulté de toucher le grand public. Non pas qu'il ne serait pas intéressé ni concerné, parce que tout le monde est concerné aujourd'hui par les problèmes, tout le monde est en questionnement, mais on ne sait pas faire.
Alors par contre, les détracteurs, et je les entends souvent dire ça, mais aujourd'hui avec Internet, il n'y a plus de problème. L'accès à l'information, il est pour chacun. Chacun peut aller cliquer pour trouver l'info. Il suffit, même, on est abondamment dans nos boîtes mail, on reçoit des mails de différentes sources, d'ailleurs on ne sait pas trop d'où elles viennent, c'est justement ça peut-être le problème, mais on reçoit une quantité d'informations massive.
Effectivement, je pense que on sous-estime effectivement le besoin d'informations que tout le monde a quelque part. Hein, moi je dis par exemple, quelqu'un qui est devant TF1 à 20h, parce que c'est le journal télévisé, il est en demande d'informations. Maintenant, bon, qu'il soit naïf ou qu'il sache pas choisir ses sources, c'est une chose, mais il n'empêche qu'il veut être informé. Moi, si je suis là aujourd'hui alors que j'ai passé ma vie dans le bâtiment, c'est parce qu'à 20 ans, j'étais abonné au Canard Enchaîné, je ne sais plus par quel hasard, mon père lisait La Voix du Nord, et donc j'avais sous les yeux la comparaison, et je me disais, dans une démocratie, il faudrait que le Canard Enchaîné soit mis gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres. C'est une évidence que l'état des lieux qu'on a fait, il est dû essentiellement au fait qu'il y a difficulté d'accès à des sources d'informations indépendantes. Quand tu dis, on trouve tout sur Internet, bien entendu qu'on trouve tout, mais il faut être sensibilisé sur un sujet. Et puis, y aller. Et ça, bah, c'est tout. C'est une réalité qu'il y a plein de gens qui le font pas parce qu'ils sont à côté, ils sont dans un autre monde, c'est peut-être un peu exagéré, mais voilà, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Moi, je dis aujourd'hui, il y a tout un public qui est privé de sources d'informations alternatives indépendantes à sa portée. Voilà. Il y a un problème de visibilité. Il y a un problème de visibilité. Bolloré tire 1 million d'exemplaires, c'est son canard. S'il mettait au kiosque, il resterait son. Bon, il les met dans le métro, là où les gens passent. En plus, il est gratuit, hein. Mais bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème aujourd'hui de rendre accessibles ces informations qui échappent à trop de gens.
On peut quand même citer un exemple qui est fort dans l'histoire récente politique. C'est le traité constitutionnel européen en 2003, où la masse de ces médias nous amenait systématiquement qu'il fallait voter oui. Ce oui était quasi unique, hein. On pouvait rarement trouver finalement une opposition là-dessus. Or, les gens se sont informés autrement. Ils se sont créés une opinion personnelle par ce qu'ils ont pu trouver. Alors, il y a évidemment tout le milieu militant qui était pour le non et qui leur a amené cette information. Ils sont aussi allés la chercher. Ils ont beaucoup utilisé Internet qui était peut-être un peu plus propre qu'il n'est aujourd'hui, parce qu'il y avait peut-être un petit peu moins de monde pour justement brouiller ce média, hein, au sens pur du terme. Mais résultat, le nom a surpris cette classe dirigeante. Et c'est pas les médias. Les médias ont raté, les médias monolithiques ont raté leur cible.
Alors, ce que nous disions dans l'émission du 3 octobre dernier est toujours vrai. D'ailleurs, la crise de la presse écrite est de plus en plus forte. Si en 2013, il y avait une petite érosion de quelques pourcents, en 2014, l'ensemble de la presse quotidienne nationale a une chute de 3,52%. Même l'équipe quand même, un quotidien qu'on imagine immensément lu, a perdu près de 10% sur la même période 2013-2014. Le Libération est lui aussi en chute, peut-être pour d'autres raisons, à moins 7%. Alors que les grands groupes industriels investissent massivement, comme Serge Dassault, propriétaire du Figaro, Bernard Arnault, PDG de LVMH, avait racheté les Échos en 2007, en n'oubliant pas non plus le trio BNP, c'est-à-dire Pierre Berger, Xavier Niel et PDG d'Iliade, et Mathieu Pigas, banquier d'affaires, qui ont mis 110 millions dans Le Monde et de racheter le nouvel observateur qui s'appelle maintenant Ops. Prochainement, en 2017, ils vont même construire et rassembler tous ces médias dans un même building. On peut imaginer que l'identité de tous ces médias aujourd'hui indépendants vont progressivement se fusionner en un seul. Alors cette presse grand public, c'est pourtant eux. Hein, les Bouygues qui dirigent TF1, Bolloré, Dassault, c'est eux qui dirigent les grands groupes. Alors qui s'adresse au grand public? Y a-t-il des moyens de faire des alternatives? Ben oui, heureusement, il y en a une qui a atteint et qui a fonctionné. Et on peut dire merci à Monsieur Cahuzac, c'est Mediapart qui a réussi à s'imposer pour une certaine crédibilité. Est-il lu? C'est pas évident, vu que c'est un lectorat qui est principalement sur Internet. Et ce qu'on veut parler ici, c'est plus de la presse papier. Alors, en presse papier, il y a une tentative très intéressante qui va être présentée aussi par Alain Duez, que nous recevions en octobre dernier dans 2 minutes. Mais on peut parler avant d'autres réussites. On peut en citer une qui est peut-être pas due finalement au journal, mais c'est Le Fakir. Hein, qui a aujourd'hui un vrai retentissement de lectorat en kiosque au travers du film Merci Patron. Et Le Fakir, qui est basé à Amiens, a pourtant réussi sa mission, peut-être, d'être plus lu, d'être plus grand public que d'autres journaux. Et puis, il y a un journal qu'on a déjà reçu dans l'émission aussi, qui s'appelle Bastamag, dont la version internet s'appelle Bastamag. Le journal s'appelle Basta, point d'exclamation, qui, avec une équipe de journalistes très au point et très pointus, arrive à suivre l'actualité autrement. Alors, on peut voir d'autres projets, et justement, celui de Main en Main, d'Alain Duez, qui va nous évoquer un projet qu'il met en marche depuis 2 ans. Alors, il y a un petit problème technique sur la bande-son d'Alain Duez. Alors, on peut néanmoins parler d'autre chose, et par exemple d'un autre média, qui est un journal qu'on connaît bien ici, en interne, dans l'émission. C'est le petit journal Le Piaf. Alors, Le Piaf est une tentative qui a maintenant pratiquement 10 ans. On peut pas dire qu'elle a réussi à atteindre son objectif, qui était a priori d'atteindre le grand public, mais elle a tenté par tous les moyens ces dernières années d'atteindre autre chose qu'une cible militante précise. Alors,
Gaël qui est aussi ici en tant qu'intervieweur, mais aussi journaliste de ce petit journal Le Piaf, journaliste bénévole, hein, c'est peut-être que le terme d'ailleurs journaliste ne devrait pas être employé, parce que l'idée du Piaf, ce n'est pas d'être à la source de l'information, mais plutôt d'en être un vecteur, justement, entre là où se crée l'information, où elle va se chercher, là aussi où les idées émergent dans la sphère un peu intellectuelle ou militante, et puis d'arriver jusqu'au grand public.
Oui, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une foule d'informations qui circulaient sur les listes de discussion militantes, mais cette information était dans un format pas vraiment grand public, avec des articles extrêmement longs, un style de langage pas forcément accessible, avec des fois des tics de langage du monde militant. Et l'objectif du PIAF, c'est de mettre tout ça sous une forme grand public, c'est-à-dire des articles avec des phrases courtes, si possible, une présentation simplifiée, enfin pédagogique des choses, et un contenu qui finalement, enfin présenter le contenu des informations qui circulent sur les réseaux militants, mais dans une version grand public.
Alors cette version grand public, c'est le cadre du PIAF, et puis sa moyen d'action, c'est d'être diffusé gratuitement, et cette gratuité, c'est pas innocent. C'est la vraie volonté de pouvoir dire que n'importe qui peut accéder à ce journal, il peut être aussi distribué gratuitement par ceux qui l'auraient imprimé sur leur propre imprimante, de manière à pouvoir atteindre, on va dire, un petit peu n'importe qui, par exemple, de pouvoir être diffusé à son voisin de palier dans sa boîte aux lettres, alors qu'on n'a pas forcément toujours envie de parler à son voisin de palier.
Voilà, et c'est pour ça que au départ on a beaucoup misé sur la diffusion papier, puisque c'était il y a 10 ans, les tablettes n'étaient pas encore hyper répandues comme aujourd'hui, donc le papier était le support grand public par excellence. Et d'ailleurs ça allait toujours. Aujourd'hui métro et enfin si métro existe toujours, mais direct matin, ça c'est toujours diffusé en papier.
Oui, on a même des chiffres de l'Institut Audipresse qui citait que pratiquement 34 millions de personnes lisent chaque jour au moins un titre de presse, 42% au moins un quotidien, et même en moyenne, chaque Français lit en moyenne 6,1 titres différents. Bon, ça peut comprendre TéléZ c'est pas pour dire du mal de TéléZ, mais enfin, c'est peut-être pas un journal d'information au premier plan. Alors on peut parler d'un autre média qu'on a reçu d'ailleurs dans l'émission le 11 mars dernier, c'était 2 jours après leur lancement, c'est un journal qui s'appelle Le Progrès Social, qui est très engagé, très à gauche de par même son nom, il est aussi lancé sans aucune publicité, c'est une aventure collective avec une quarantaine de personnes dans ce projet. Et pour ceux qui le reçoivent en kiosque quotidiennement, c'est un effort phénoménal. Ils ont réussi depuis mars à diffuser quotidiennement un journal totalement alternatif, totalement différent. C'est un 4 pages de très bonne facture, très joli, en couleur, avec des photos, des informations, et des informations qui se veulent être totalement différentes de ce qu'on peut lire ailleurs, étant donné qu'ils vont chercher l'information non pas en interviewant la police après une manifestation, mais directement les manifestants. Lors des problèmes, par exemple, à Air France, on a peu entendu parler les personnes en colère qui ont déchiré les chemises, on a plutôt entendu les patrons qui déchirent les chemises. Donc dans cette logique-là, on a réussi à avec le Progrès Social à faire peut-être une différence forte avec la presse quotidienne traditionnelle. Oui. Alors on va peut-être arrêter là le débat et puis lancer une chanson. Par exemple, on peut écouter en lien avec la campagne présidentielle actuelle, on peut écouter une vieille chanson de Starmania, pas très connue, c'est l'interview de 0 janvier.
Says to you, but I'm gonna say back after I'm done. One more chorus line and it's the end of the song. I know the whole world says to you.
Bonjour, vous êtes bien sur Mode d'emploi, l'émission sur Fréquence Paris Pluriel, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des animateurs altermondialistes de l'association Attaque et du journal Le Piaf. Et nous interviewons Frédéric Vial, Gaël.
Oui, Frédéric Vial, le membre éminent d'Attaque, auteur du manifeste contre les accords transatlantiques aux éditions Éric Bonnier. Alors, en ce moment, l'actualité des accords de libre-échange est chargée, et c'est pour ça que nous t'invitons. On a beaucoup parlé du TAFTA, l'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, qui semble faire l'unanimité contre lui. On a un peu moins parlé du CETA, l'accord entre l'Europe et le Canada. Et pourtant, le Conseil européen adopte mardi cet accord et le signe en grande pompe le 27 octobre. Et puis, troisième accord, ou plutôt famille d'accords, c'est les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays africains. Ces derniers avaient jusqu'au 1er octobre pour accepter les accords proposés par l'Europe. Alors, nous allons parler de tous ces accords de libre-échange. Et on va commencer par le plus simple, le TAFTA. Si j'ai bien compris, c'est mort, personne n'en veut, ni Hollande, ni Hillary Clinton, ni Donald Trump. Donc finalement, c'est enterré, tout ce beau monde s'est repenti du libre-échange ?
Comme vous y allez. Non, pas du tout. En réalité, c'est vrai qu'il y a des oppositions très très sérieuses contre le TAFTA. Et d'abord, des oppositions très sérieuses aux États-Unis. Mais en tous les cas, pour ce qui concerne notre gouvernement et la Commission, c'est pas du tout une opposition, hein. Puisque le Conseil des ministres, des chefs d'État et de gouvernement, pardon, qui s'est tenu à Bratislava récemment, a décidé de continuer les négociations avec les États-Unis. Et en ce moment, là où on se parle, il y a une séance de négociation qui a lieu entre l'Union européenne et les États-Unis sur les bases que nous connaissons. Alors il est vrai qu'aux États-Unis, il y a une campagne électorale et que aucun des candidats n'ose dire aujourd'hui qu'il est pour les accords de libre-échange, mais ceux-là ne sont pas morts et ils continuent en tous les cas à suivre l'impulsion que lui donnent et la Commission et les gouvernements des États membres de l'Union européenne. Alors c'est vrai qu'il a du plomb dans l'aile, on va dire politiquement, mais on est très 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 loin d'avoir gagné, très loin.
Et alors Pourquoi ces gens qui, jusqu'à présent, ont été des fervents partisans du libre-échange, trouvent que le TAFTA, c'est pas un bon accord ?
Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect côté États-Unis. Il y a des mobilisations extrêmement fortes aux États-Unis. Et ça fait 20 ans que les États-Unis connaissent l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Et alors qu'il y a 20 ans, le président Clinton promettait des millions d'emplois et de bons emplois américains, 20 ans plus tard et 1 million d'emplois détruits, déstructuration aussi de l'économie mexicaine, tout ça amène aux gens qui soutiennent le libre-échange aux États-Unis à être beaucoup plus discrets. Alors ici, en Europe, les choses sont un petit peu différentes. C'est qu'il y a aussi des mobilisations tout à fait considérables. Et il y a eu plus de 3 millions de signatures qui ont été obtenues en un an contre le TAFTA. Il y a 2000 collectivités territoriales qui se sont prononcées contre le TAFTA. Donc il commence à y avoir un peu le feu au lac. Mais on a quand même, de la part du gouvernement et de la Commission, non pas des opposants au libre-échange, mais des gens qui se disent « on va changer le fusil d'épaule et on va aller vers un autre accord, qui est un accord de libre-échange qui fait aujourd'hui, enfin espère-t-il, moins peur, qui est l'accord entre l'Union européenne et le Canada. Et là, ils font tout pour essayer de le promouvoir, alors que l'accord entre l'Union européenne et le Canada est au moins aussi dangereux que le TAFTA et qu'en tous les cas, il porte exactement les mêmes dispositifs que ceux qui sont prévus dans le TAFTA.
Oui, parce que la présentation qui a été faite, c'est que le TAFTA serait un mauvais accord et le CETA, l'accord avec le Canada, serait un bon accord et on l'a même appelé l'anti-TAFTA.
C'est le ministre Feckel qui est très inspiré sur la question et qui, il faut le dire, ne manque pas d'air. parce que en fait nous assistons à quelque chose d'assez grave qui est une opération d'enfumage et de maquillage assez systématique, voire complètement systématique de la part du gouvernement et de la commission pour essayer de nous faire passer des vessies pour des lanternes.
Alors justement, est-ce que tu peux résumer, si c'est possible, cet accord de libre-échange. Quels sont les principes de cet accord de libre-échange?
Alors d'abord, le CETA, l'accord Union européenne-Canada, est un accord de libéralisation. C'est-à-dire, c'est un accord qui met en place ce qu'on appelle des disciplines dans le jargon de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire dans le jargon du libre-échange, et qui met en place ce qu'on appelle une ouverture totale des marchés, ou pratiquement totale des marchés, et un accès des entreprises transnationales étrangères sur les territoires pour pouvoir prester un certain nombre de services ou pour pouvoir vendre un certain nombre de marchandises. Cet accord de libéralisation, il passe par la mise en place d'un certain nombre de principes, c'est-à-dire ouverture des marchés, interdiction des mesures distorsives au commerce, c'est-à-dire des mesures qui peuvent avoir une conséquence sur le libre-échange, c'est-à-dire le commerce libre et non faussé, enfin la concurrence libre et non faussée, voilà. Et puis qui met en place les principes comme le traitement national. Le traitement national, c'est le fait que toutes les entreprises sont traitées de la même manière, quelle que soit leur nationalité. Ce qui veut dire que demain, dans la mesure où le TAFTA ouvre le secteur de l'éducation, par exemple, le CETA. Le CETA aussi, voilà, ouvre le secteur de l'éducation, eh bien ça voudra dire qu'une entreprise d'éducation supérieure, supérieure ou autre d'ailleurs, va pouvoir s'installer en Europe et par exemple en France, et au nom du traitement national, recevoir exactement les mêmes types de subventions que reçoit l'opérateur ou les opérateurs déjà présents, éducation nationale, école privée. Ce qui veut dire à terme que devant cette ampleur de devoir faire face aux subventions demandées, l'État va être obligé de se retirer. L'État va être obligé de se retirer et on vérifiera qu'une fois de plus, la libéralisation est le prélude à la privatisation. Ça, c'est le premier point, je dirais, c'est un accord de libéralisation. C'est un accord de libéralisation et c'est un accord aussi qui prévoit l'augmentation de l'importation d'un certain nombre de produits, comme par exemple des produits agricoles, ce qui va déstabiliser considérablement les filières agricoles, notamment de l'élevage, puisque là, le CETA prévoit notamment dans son annexe 2 une augmentation des importations de bœuf, des importations de porc, dans des proportions qui ne sont pas tellement importantes, mais qui sont suffisantes pour déstabiliser une économie, enfin des filières. Mais aussi, ce sont des accords, et c'est là où vraiment on peut parler d'enfumage et de scandale, c'est un accord qui prévoit deux mécanismes, qui sont le mécanisme de règlement des différents investisseurs États et le mécanisme de coopération réglementaire. Et là où on assiste...
Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que sont ces deux mécanismes? Parce que c'est un peu technique. Le premier, par exemple, le mécanisme de règlement des différents États investisseurs.
Alors, en fait, c'est un truc assez simple. C'est l'idée qu'une entreprise transnationale siffle dans ses doigts, convoque à sa table un État et lui dit « Vous avez pris des réglementations internes qui vont à l'encontre de mes bénéfices escomptés. C'est une mesure distorsive au commerce. En conséquence de quoi, je vous demande la réparation, c'est-à-dire je vous demande de me verser l'argent qui correspond aux bénéfices que je n'ai pas eus. » C'est assez hallucinant, mais c'est ça. Et par exemple, je trouve l'exemple le plus pédagogique qui ait eu lieu, qui puisse être donné, c'est celui de Veolia, qui en Égypte a un marché de traitement des ordures ménagères, et qu'il s'est trouvé qu'en Égypte, il y a eu le printemps arabe qui a augmenté les salaires minimums des gens. Eh bien, ce qu'a fait Veolia, c'est qu'elle a dit, voilà, j'avais l'espoir d'avoir tant de millions de bénéfices, je vais devoir payer les gens un petit peu plus cher parce que le salaire minimum est augmenté, je présente la facture à l'État égyptien. Et je ne présente pas la facture à l'État égyptien comme ça, je présente la facture à travers un mécanisme, Je présente la facture donc à travers un mécanisme d'arbitrage, c'est-à-dire je demande à des avocats internationaux privés condamner l'État à payer le bénéfice escompté que n'a pas obtenu l'entreprise. Je ne sais pas si je
donc,
suis clair.
Donc finalement, cet accord crée une espèce de justice internationale. C'est plutôt un point positif, non, de créer des tribunaux internationaux qui vont gérer et qui vont régler les différends en matière de commerce international.
Ce ne sont pas des tribunaux internationaux, ce sont des organismes d'arbitrage. C'est très différent. Il ne s'agit pas de magistrats. Il s'agit d'avocats internationaux qui, comme tous les avocats, ont des clients et qui un jour ont tel client, le lendemain ont tel autre client, le jour d'après ont le client suivant, et ensuite tranchent dans une affaire qui oppose une entreprise qui a pu être un de leurs clients et un État. Et donc en fait, le mécanisme d'arbitrage porte en lui-même le conflit d'intérêts. Mais... Et ce sont à ces arbitres, entre guillemets, internationaux, c'est-à-dire à ces avocats internationaux, qu'on demande de se substituer au juge, parce que le juge, il existe, il y en a un dans chaque pays. Et on demande de se substituer à lui pour amener à une condamnation d'un État sur une mesure d'ordre public, y compris de protection, y compris une mesure une décision politique qu'a pris l'État. Et pardon, vous aviez une question ?
Oui, un des articles de l'accord stipule que les membres instance d'arbitrage sont indépendants, qui ne reçoivent d'instructions ni d'organisation extérieure ni de gouvernement et qui ne doivent pas se prononcer sur un cas lorsqu'un conflit d'intérêt direct ou indirect est déclaré. Donc il y a une certaine éthique qui semble préservée dans l'accord.
Vous n'avez pas lu l'article 830 dont vous parlez jusqu'au bout. L'article 830, il dit ça dans le premier alinéa. Il en aurait fallu un second alinéa qui prévoit des sanctions. Et vous ne l'avez pas trouvé, cet alinéa, parce qu'il n'existe pas. Donc une éthique qui est basée uniquement sur le volontariat, ce n'est pas une éthique. Et on ne peut pas poser, et on ne peut pas dire, et c'est ce que fait le ministre. Hein. Le ministre Fekel essaie de nous enfumer avec ça. Il essaye de nous faire croire qu'il s'agit de magistrats, parce qu'il y a un article, l'article 830, qui s'intitule « Éthique », qui dit ce que vous avez dit, mais qui ne dit à aucun moment quelles sont les sanctions qui sont attachées à cela. Ce qui veut dire que si un arbitre connaît un conflit d'intérêt, qu'il ne l'a pas déclaré, qu'est-ce qui se passe ? Pour lui, rien. Ça n'a rien à voir avec un statut de magistrat. Un magistrat, quand il connaît un conflit d'intérêt, lui, alors, il doit rendre des comptes, il est éventuellement viré de la magistrature et il est poursuivi au pénal. Ce qui n'est pas le cas dans cet accord-là. Et d'ailleurs, si vous regardez aussi la manière dont les arbitres sont désignés, l'article 8.27, vous avez la définition de la manière qui est habituelle pour la désignation des arbitres internationaux, des avocats internationaux. Des gens, entre guillemets, qui sont reconnus pour leurs compétences en matière d'arbitrage et d'investissement. Rien d'autre. Et si vous regardez 8.27.2, vous voyez que la procédure qui est prévue est celle du CIRDI, le Centre International de Règlement des Différends sur l'Investissement, qui est le gros centre d'arbitrage mondial. Donc, à aucun moment, on a affaire à un tribunal, à aucun moment, on a affaire à une juridiction, on a affaire à un groupe d'arbitrage, c'est-à-dire d'une justice privée, d'avocats internationaux, qui vont permettre aux entreprises de contourner les règles communes qui s'imposent à tous. Les règles communes qui s'imposent à tous vont pouvoir être contournées par ce mécanisme-là. Et le scandale, il est énorme quand le ministre nous dit qu'il s'agit d'une quasi-juridiction, d'une juridiction, en se basant donc sur le chapitre 8 du CETA. C'est totalement faux. Ce ne sont pas des magistrats, comme il le dit, ils sont désignés comme des arbitres. Donc c'est déjà un premier mensonge. Il n'y a pas d'éthique, c'est déjà un deuxième mensonge. Mais il ment une troisième fois le ministre en osant prétendre que ce même chapitre 8 de protection sur l'investissement garantit aux États le droit de continuer de réglementer. Il nous a dit ça, les États peuvent continuer de réglementer.
Oui, c'est l'article 8.9 qui dit qu'une réglementation dans le domaine de la protection de la santé publique, de la sécurité, de l'environnement ou de la moralité publique, de la protection sociale ou des consommateurs, ou de la promotion et de la protection de la diversité culturelle ne peut faire l'objet d'une plainte devant cette instance de, d'arbitrage.
Est-ce que vous avez regardé l'article 892 ?
Eh non. Eh non.
Vous auriez vu à la fin qu'il y a trois mots qui tuent, qui sont dans cette section. Vous savez que les accords de libre-échange organisent ce qu'on met en place, ce qu'on appelle des disciplines, c'est-à-dire des moyens pour obtenir la libéralisation. Le traitement national, j'en ai parlé tout à l'heure, la clause de la nation la plus favorisée, le traitement juste et équitable et l'expropriation. L'article 8.9 ne s'applique pas au traitement national et à la clause de la nation la plus favorisée.
Donc, on rappelle, le traitement national, c'est le fait qu'on doive traiter n'importe quelle entreprise comme on traite les entreprises nationales, c'est ça ?
Voilà. Mmh. Et donc, ça veut dire que, y compris avec cet article 8.9 que vous venez de lire, dans la mesure où il ne s'applique que sur le traitement équitable et sur l'expropriation, ça veut dire que demain, si une entreprise estime qu'elle est lésée par rapport à ses bénéfices escomptés, elle pourra dire qu'une mesure sanitaire, une mesure sociale, une mesure environnementale est contraire à ses bénéfices escomptés, elle est contraire au traitement national. Et elle pourra dire, en réalité, ces mesures sont prises juste contre moi, entreprise, surtout cette entreprise si elle a une position de monopole local. Et donc, en fait, cet article 892 est un article qui restreint un petit peu la possibilité pour les entreprises de saisir le mécanisme d'arbitrage, mais pas complètement. Et donc, cet article-là qu'on met en avant, il n'empêchera pas les arguties juridiques et il n'empêchera pas les entreprises de contourner la règle commune et de contester un certain nombre de choses. Par ailleurs, regardez ce que peut faire aussi, ce que pourront faire aussi les entreprises. Là, vous avez entendu tous parler de l'affaire Alstom. Bon, vous avez vu que le gouvernement a pris un certain nombre de décisions qui consistent, j'en parle pas sur le fond, hein, je dis juste le gouvernement a pris une décision qui consiste à lever des options dans un contrat, enfin bref, et de commander des TGV pour les mettre sur les lignes secondaires, là, les lignes régionales. Ça ne passe pas la rampe avec ce type d'accord. Avec le CETA, vous avez Bombardier qui, deux heures après, attaque la décision de la France et obtient soit que la mesure soit retirée, soit la même commande de la France. Mais en tous les cas, ça ne se passera pas du tout comme c'est en train de se passer actuellement.
Parce qu'il y aurait un favoritisme vis-à-vis d'une entreprise française.
Voilà, on va à l'encontre du fameux traitement national et d'une interdiction aussi du fait de cette décision gouvernementale de fait, d'accéder au marché dans les mêmes conditions que les entreprises déjà présentes.
Mais bon, faut pas être si négatif. Dans les chapitres 22 à 24 de l'accord, l'Union européenne et le Canada réaffirment leur attachement au développement durable, à la sauvegarde de l'environnement et à la sauvegarde, enfin, et à l'impact social du commerce.
Vous remarquerez le temps utilisé. Je ne sais pas si vous avez vu la version française ou la version anglaise, mais en tous les cas, le temps est au conditionnel. C'est « may consider », c'est-à-dire c'est à chaque fois on peut le faire quand il s'agit de développement durable, quand il s'agit de protéger les intérêts des ouvriers. Certes, le Canada a dit qu'il allait ratifier la convention OIT 98, je crois, celle sur les conventions collectives. Ça, c'est positif. Mais après tout, le Canada pouvait le faire de toute façon. En revanche, vous avez parlé de chapitre 22, 23, 24. Je vous invite à regarder le chapitre 21, le chapitre sur la coopération réglementaire. Il est redoutable. Dans l'avenir, toutes les mesures de protection sociale, environnementale ou autre, qui aura un impact sur les commerces, c'est-à-dire toutes les mesures, devra auparavant passer devant un organisme qui s'appelle le Forum de coopération réglementaire et qui est composé de hauts fonctionnaires de l'Union européenne et du Canada et qui devra dire ce qu'elle pense de ces réglementations envisagées et qui aura la possibilité de refuser les réglementations envisagées si elles ne sont pas basées sur des compétences scientifiques reconnues par les deux parties et si elles sont trop coûteuses pour les entreprises. Qu'est-ce que c'est que ça qu'une réglementation trop coûteuse pour les entreprises ? Elles le sont toutes,
par définition. Et c'est ça le fond de l'accord. C'est que on n'est pas du tout dans du commerce. On est dans de la réglementation. C'est-à-dire, on est dans l'idée que les entreprises transnationales vont pouvoir décider du périmètre de l'action publique. Et ça, le gouvernement aujourd'hui et la Commission essayent de nous faire passer ça pour un bon accord et un anti-TAFTA. C'est de l'enfumage total et une escroquerie invraisemblable.
Alors, on va voir tout à l'heure le calendrier de cet accord et l'action possible. En attendant, une petite musique.
Alors, la pause musicale de tout à l'heure n'était pas la chanson annoncée. Elle était de Devena Banhart dans son dernier album. Par contre, celle-ci, elle sera bien celle annoncée. Elle est bien dans le thème, vu qu'on va écouter un Canadien de l'autre côté de l'Atlantique, plus exactement même un Québécois, qui parle pas exactement du CETA, mais on a l'impression qu'il le fait, vu qu'il ne veut pas d'accord, là, entre le Québec et le Canada anglophone, c'est Robert Charlebois, indépendantiste.
Elle enfile un bustier fleur de lysée pour afficher garde l'Atlantique forever indépendant.
Bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel et nous écoutons l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, animée ce soir par une équipe altermondialiste de l'association ATTAC et des journalistes du journal Le Piaf. Et nous sommes en train d'interviewer Frédéric Vial, membre éminent de l'association ATTAC, à propos des traités et des négociations de traités internationaux, enfin transnationaux. Pardon.
Voilà, et nous parlions du CETA, l'accord de libre-échange qui vient d'être accepté entre le Canada et l'Union européenne. Donc le Conseil européen va adopter cet accord de libre-échange mardi prochain, le 18 octobre. Il y aura une signature en grande pompe, j'imagine, le 27 octobre. Et ensuite, l'accord doit être ratifié par les parlements nationaux. Donc est-ce que tu peux nous parler de cette phase de ratification par les parlements nationaux ?
D'abord, il est absolument pas sûr que l'ensemble des pays ratifient le 18 parce que il y a un pays qui résiste encore et toujours, qui n'est pas du côté de l'Armorique mais qui est du côté de la Belgique, puisque on a appris aujourd'hui que le Parlement wallon, le Parlement qui s'occupe de Wallonie-Bruxelles, ne voulait pas autoriser le gouvernement fédéral belge à la ratification et en tous les cas pas à l'application provisoire de l'accord. Ensuite, les parlements nationaux vont être saisis si l'application, comment dire, si on décide le 18 que c'est un accord mixte, c'est-à-dire relevant de l'Union européenne et relevant des États nationaux. Ça va être décidé comme ça. Et alors là, après, il va falloir se battre pour qu'il y ait une ratification qui ne soit pas dans 5 ans. Parce que s'il y a une ratification dans 3 ou 4 ou 5 ans, et que par ailleurs il y a l'application provisoire, parce que ça va être décidé dès le 18. Dès le 18, les ministres vont dire application provisoire ou pas. C'est hallucinant, hein, sur le plan démocratique, c'est assez rock'n'roll, mais ça c'est pas les accords de libre-échange, hein, c'est le traité de fonctionnement de l'Union, l'article 218 du traité de fonctionnement de l'Union pour être précis. Et il y a toutes les chances qu'ils décident de l'application provisoire parce que en dépit de toutes les résistances, y compris institutionnelles, on a un gouvernement, nous, qui n'arrête pas de tout faire pour essayer d'imposer l'application provisoire. Voilà. Donc ensuite, il y aura ratification au Parlement européen si toutefois tout se passe comme le décide la Commission, on n'en sait rien. Ratification du Parlement européen entre décembre, fin décembre et début janvier. Donc il y a un peu le feu au lac, il faut un peu se dépêcher de se mobiliser. D'ailleurs on en parlera dans le calendrier puisque demain, vous voyez, on est en phase avec l'actualité, il y a une grande manif de prévu et qui démarre à Stalingrad de 15h, je le dis, mais ça va être répété tout à l'heure. Et c'est important, et puis ça préfigure des mobilisations qui auront lieu en décembre aussi et en janvier à propos du Parlement européen. Et de toute façon, il faut savoir que quel que soit le résultat, on lâchera pas. La ratification nationale, encore une fois, si elle est décidée mais qu'elle a lieu dans 5 ans, ça va pas le faire. Donc là aussi, on va se battre là-dessus.
D'accord. Et est-ce que l'unanimité est requise pour le 18?
Oui, l'unanimité est requise. Alors, ceci dit, il y a une petite chose qu'il faut savoir, c'est que l'unanimité, dans lequel on ne compte pas les abstentions. Donc, les gouvernements qui auraient un peu tendance à dire « Oh, c'est pas bien ce truc-là », mais qui n'auraient pas le courage d'aller jusqu'au bout, pourraient s'abstenir, et néanmoins, ça n'entamerait pas l'unanimité. C'est une autre subtilité.
Mais un vote négatif de la Belgique suffirait à bloquer
Normalement, oui. Mais de la Belgique ou de la France, si on avait un gouvernement de gauche, voyez. Enfin, ou simplement un gouvernement démocrate, d'ailleurs. Parce que, quand même, à l'Assemblée nationale, il y a une commission, la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, qui voulait discuter de l'application provisoire. Qu'est-ce qu'a fait le Parti socialiste? Il a démissionné 5 députés de la commission des affaires européennes de l'Assemblée. Il en a nommé 5 autres pour être sûr que le vote aille dans le sens du gouvernement. C'est le sens démocratique, on va dire, la façon dont le gouvernement pense qu'il faut traiter les questions d'une manière transparente et démocratique, voyez.
D'accord. Donc au-delà de demain, il y aura toute une pression à organiser à la fois sur les gouvernements et les députés.
Exactement.
Alors il y a d'autres accords de libre-échange dont il a été question cet été. Ce sont les accords de libre-échange entre l'Union européenne et les pays africains. Jusqu'à présent, les relations commerciales entre l'Europe et l'Afrique étaient régies par les accords de Cotonou, qui étaient des accords asymétriques, c'est-à-dire dans lesquels l'Union européenne acceptait les produits africains avec très peu de zéro droit de douane, et inversement, les pays africains pouvaient continuer à appliquer des droits de douane sur les produits européens qu'ils importaient. Alors, quelle est la différence entre les projets de nouveaux accords commerciaux avec l'Afrique et ces accords de Cotonou?
On n'est déjà plus dans le projet, hein. C'est-à-dire que les accords de partenariat économique ont été signés là récemment, et en tous les cas par la partie Afrique de l'Ouest, voyez, l'Afrique de l'Ouest a accepté ça et le Parlement européen a enchaîné. La grande différence, si vous voulez, c'est que au nom d'un traitement équilibré entre l'Union européenne et l'Afrique, et au nom du respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce, eh bien figurez-vous que cette capacité qu'avaient les pays africains d'exporter sans contrepartie, c'est terminé. C'est-à-dire que désormais, à mesure qu'il y a des produits qui rentrent dans l'Union européenne en provenance de l'Afrique, il y aura des produits qui rentrent sur le territoire africain en provenance de l'Union européenne aux mêmes conditions. Ce qui veut dire que, et dans la mesure où les produits de l'Union européenne sont et vont être systématiquement plus compétitifs en termes de prix, on aura encore davantage de déstructuration, si c'est possible, d'un certain nombre de filières de production locale. Et puis, autre conséquence des APE, une baisse tout à fait importante des droits de douane. Des droits de douane dont bénéficiaient les pays africains, puisque les produits en provenance de l'Union européenne ne seront plus taxés comme ils l'étaient jusque-là. Alors chez nous, les droits de douane, c'est pas grand-chose en termes budgétaires. Pour un pays comme le Cameroun, par exemple, on tutoie 20, 25, 30% du budget. Et ça, évidemment, c'est quand même très grave pour ces pays.
Le d'avoir budget de l'État.
Oui, on parle de ça, du budget de l'État, effectivement. Alors, ça se veut progressif. Il y a l'Union européenne qui a parlé de débloquer un certain nombre d'aides. Il est question d'un milliard. Enfin, d'une part, ça s'appelle faire l'aumône, ça, en français. Et puis ensuite, le fait d'aider un pays, ça n'a rien à voir au fait que ce pays a des ressources propres. Vous voyez, c'est deux choses totalement différentes.
Pourtant, ça semble être fait avec de bonnes intentions, puisque Cecilia Malmström, la commissaire européenne au commerce, a déclaré que elle parlait de l'accord avec les pays d'Afrique australe. C'est-à-dire que cet accord favorisera une croissance économique durable et l'intégration régionale en Afrique australe et doit aider la population locale à sortir de la pauvreté dans les prochaines années. Et l'article ajoutait que, en signant l'accord, les participants se sont engagés à agir en faveur du développement durable, y compris en respectant les normes sociales et environnementales. Donc, il semble que cet accord soit fait pour mettre l'Afrique sur la bonne voie, non ?
Oui, oui, mais bien sûr, comme tous les accords de libre-échange ont toujours abouti systématiquement et sans aucune défaillance à créer de la richesse, du partage de la richesse, et à faire retomber en pluie d'or la création de ce bénéfice sur la population locale qui ébahit, qui va obtenir tout ça. Bon, enfin, si vous voulez, personnellement, j'ai cessé de croire au Père Noël à l'âge de 6 ans. Voilà. Vous, non ? C'est une question, hein, je vous retourne la question.
Donc finalement on en vient à l'émission, c'était quoi ? Ambition intime.
Oui, c'est ça, un peu, il y a ça, voilà.
Alors, donc finalement, si cet accord est si mauvais pour l'Afrique, comment l'Europe a poussé les Africains à signer cet accord ?
Tout simplement parce que, enfin, si on essaye de trouver une explication un petit peu rationnelle de toutes ces choses-là, il y a deux aspects, hein. Il y a l'aspect idéologique qui est toujours présent dans nos dirigeants, qui sont profondément des dirigeants archaïques. C'est-à-dire qu'ils sont profondément convaincus, et Madame Malmström fait partie de ces dirigeants, que le libéralisme est l'alpha et l'oméga du bonheur sur Terre. Et en fait, ils reprennent ce que disait en 1974 un certain Helmut Schmidt, qui nous disait les bénéfices d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Bon, ça fait 40 ans qu'on vérifie que c'est pas vrai. Mais ils sont toujours avec ce genre de choses. Et puis derrière, vous avez une réalité concrète quand même qui est beaucoup plus importante que la simple idéologie, qui est l'existence d'un certain nombre de lobbies qui se trouvent au cœur de la décision politique de l'Union européenne et qui veulent bien effectivement qu'il y ait encore davantage d'ouverture, encore davantage de possibilités d'exportation, encore plus de facilité si possible. Voilà. Donc si on est très très pessimiste et très cynique, on se dira de toute façon c'est un fléau de plus pour l'Afrique, elle est déjà habituée. Mais ça, c'est faire preuve de beaucoup de cynisme, parce que ce qui risque de se passer véritablement, c'est que des populations locales qui jusque-là arrivaient encore à vivre de leur production n'y parviendront plus. Et vont amplifier ce phénomène qui est déjà considérable dans ces pays, qui est celui de l'exode rural vers des grandes villes qui les absorbent pas. Et ensuite, deuxième marche de l'exode vers nos pays. Et finalement, ces accords arriveront à ce que le nombre de personnes qui se noient en Méditerranée augmentera. Alors bien sûr, on aura, au moment où des images parcourront Internet, un certain nombre de larmes de crocodiles sur la question. Mais au fond, les choses, de ce point de vue, sont d'un cynisme constant de la part de nos dirigeants. Et je dirais d'une irresponsabilité totale. C'est très grave, je crois, de traiter et de continuer de traiter notre voisin comme nous le traitons, notre voisine en l'occurrence, l'Afrique.
Alors, on n'a pas réussi à avoir la peau des accords avec l'Afrique. On réussira peut-être à avoir celle de l'accord avec le Canada. Donc, la manif, c'est demain, enfin, une des manifs, j'espère, c'est demain à 15h30 à Stalingrad, jusqu'à République. Ensuite, il y aura une petite animation à République.
Voilà.
C'est une assemblée citoyenne avec Suzanne Georges notamment.
Ça sera à 18h, oui, place de la République.
Voilà. Et à 21h, un opéra sur la crise qui sera joué par Orchestre Debout.
L'Orchestre de Nuit Debout, oui. Et sans compter à 19h30, buvette, grignotage. Il n'y a pas forcément de buvette formelle, mais il y aura des camions, il y aura tout ce qu'il faut. Donc venez faire la manif. La manif aura aussi la particularité d'avoir 4 cortèges différents pour aller choisir le thème que vous préférez, avoir des slogans et des étiquettes spéciales. Bref, c'est pas une manif statique, c'est une manif pour essayer de faire du bruit. Alors, c'est justement l'agenda qui commence.
Et oui, et avant la manif, il y a autre chose.
Parce que juste avant la manif, il y a une journée du 15 octobre de demain très chargée. Vu que le 15 octobre à 12h30, il y a une manifestation commune en soutien aux inculpés contre les violences policières, avec des slogans « Sans fouilles, sans nasses et sans papiers lors des prochaines manifs ». C'est aussi place de la République jusqu'à la nuit des Flandres. Et ça permet d'enchaîner sur la manif de 15h30, place de Stalingrad. Il y a aussi le même jour, dans l'après-midi, si vous voulez vous reposer les pieds, Un petit présentation d'un livre pas très loin, Librairie de la Brèche.
Qui est un livre sur l'histoire, l'histoire de Podemos, qui, depuis le mouvement des indignés en 2011 jusqu'aux élections de 2016, ont fait beaucoup bouger la vie politique espagnole et continuent de faire beaucoup bouger la vie politique espagnole, puisque ce livre parle de la genèse de cette... de ce mouvement, de son ascension, ses innovations, son mode de fonctionnement et comment il entend contribuer à lutter contre l'austérité et le néolibéralisme en Europe. Il y aura un débat, une vidéo et tout ce qu'il faut savoir sur Podemos.
Alors toujours demain à 17h au bar-restaurant Le Lieu-dit rue Sorbier. C'est les rendez-vous d'Acrimed, c'est le numéro 21 et il y aura autour de ce débat, de ce numéro, un débat. Et puis évidemment demain soir, Nuit debout.
Oui, voilà, à la place de la République, qui à 17h fera une revue de la misère. Nuit debout, convergence des luttes, à 17h, vous invite à débattre et à décider comment s'organiser donc pour la suite.
Alors peut-être plus festif, mais toujours aussi engagé, toute la journée de dimanche, enfin dimanche après-midi, de 14h à 22h, c'est le cabaret d'urgence, organisé entre autres par Joli Mom, au théâtre de l'Épée de Bois, à la cartoucherie de Vincennes. Le gouvernement passe en force, l'état d'urgence en réponse aux luttes sociales. Non, on est pour la séparation du MEDEF et de l'État, contre la répression des gens debout. Les intervenants sont divers, c'est la compagnie Joli Mom, mais ça va être aussi Pierre Rimbert du Monde Diplomatique, ou François Ruffin du Fakir, qui va répondre à Fredo des Orques de Barbac, ou à Thomas Pithiot, dont on a souvent passé des chansons ici, ou Agnès Bill, ou même Olivier Besancenot, Arnette Laguillet. Enfin bref, une belle après-midi à Vincennes dimanche.
Lundi à midi, à l'université d'Évry-Val-d'Essonne, une rencontre débat « Mais que fait la police ?». C'est dans l'amphi A102, bâtiment premier cycle, boulevard François Mitterrand à Évry, une rencontre débat organisée par le comité de mobilisation de l'université d'Évry sur notamment les violences policières.
Et lundi à 17 octobre, toujours à 16h, à la Maison des Métallos, rue Pierre Timbaud à Paris, projection du film « La vie est à nous » et du film « Les Métallos ». C'est à l'occasion de venir assister gratuitement, vu que ce sera la journée du patrimoine 2016.
Et vous pourrez coucher sur place, puisque le lendemain, le 18 octobre à 19h15, toujours à la Maison des Métallos, le Cinécroc d'attaque de Paris 11 diffusera un film « L'intérêt général et moi » sur les grands... projet inutile et imposé, comment se fait-il qu'ils existent, comment se détermine l'intérêt général, la façon de se prendre ce type de décision. Et la projection de ce petit film sera suivie d'un débat avec Philippe Ellus.
Alors on fait juste les titres de la fin de l'agenda à toute vitesse. Mercredi 19 et 20 octobre, au Parc Saint-Pierre, aller à Amiens pour le retrait des poursuites et relax des Goudières. Mercredi 19 à 19h30, réunion publique TAFTA-CETA organisée à la Maison des Associations du 13e rue des Caillots par attaque du quartier, c'est-à-dire du 13e arrondissement. Et aussi un débat très intéressant à la librairie La Brèche le jeudi 20 octobre, les dispensaires autogérés grecs qui témoignent au travers d'un ouvrage de comment les Grecs ont pu résister à la mainmise économique forte qui les brise en créant des moyens parallèles pour la santé. Et tant d'autres choses, évidemment, vous pouvez tout aller voir sur le site d'atmosphère.net. Il y a mille et une activités ce mois d'octobre qui est malheureusement très riche en lutte. On termine l'émission en remerciant tous les participants. Frédéric Gall, évidemment, merci. Notre invité. Gaël en l'interview. Un technique, Gilles Ludo et Jean-Yves. Et nous terminons en écoutant Québec oblige. Joranne, chanteuse québécoise, qui nous chante « J'ai demandé à la Lune ».